Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui, le Grand Orient de France. Une émission préparée et présentée par Daniel Morfois.
Bonjour, Daniel Morfois, en votre compagnie pour le Grand Orient de France. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par présenter un événement extrêmement important, mais sans lien, ou en tout cas sans lien direct avec celui dont nous allons nous entretenir. Il s'agit de la troisième conférence internationale d'histoire de la franc-maçonnerie, qui se tiendra les vendredis 14 juin et samedi 15 juin sur le site de la Bibliothèque nationale de France, le site François Mitterrand. Alors le programme en est véritablement passionnant et je rassure les auditeurs non anglicistes, toutes les conférences en anglais, puisqu'il y a beaucoup d'intervenants américains, anglo-saxons, toutes les conférences sont en traduction simultanée. Le thème de ces interventions et des rites pour construire la fraternité. Et c'est organisé par le musée de la franc-maçonnerie, rue Cadet à Paris, et les Policy Studies Organization de Washington. Alors l'entrée est gratuite, mais suppose une inscription sur le site www.ipsonet.org. Et il faut cliquer sur l'onglet conférence/WCF pour s'inscrire. J'ai fait la manipulation qui est extrêmement simple. J'ai annoncé que cette information était sans lien avec notre thème du jour, ce qui n'est pas complètement exact puisque cette émission est consacrée aux rencontres Lafayette entre le Grand Orient de France et la Grande Loge nationale française. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Norbert Hiller, prof émérite des universités et intervenant conférencier pour la Grande Loge nationale française, et Jacques Garra, grand maître adjoint du Grand Orient de France et programmateur de cette émission. Bonjour Norbert Hiller.
Bonjour.
Bonjour Jacques Garra.
Bonjour.
Tout d'abord, Jacques Garra, qu'est-ce que ces rencontres Lafayette ?
Alors, les deux obédiences qui sont en présence là n'ont pas tellement coutume de travailler ensemble, d'échanger ensemble. Et c'est pourquoi il y a quelques années, enfin il y a cinq ans, puisque nous faisons les cinquièmes rencontres Lafayette, on a décidé de travailler une fois par an sur un thème choisi ensemble, alternativement dans les locaux du Grand Orient de France ou dans ceux de la Grande Loge nationale française. Et cette année, ce sera dans les locaux du Grand Orient de France, 16 rue Cadet. Et donc la formule qui, depuis le début, préside à ces rencontres, c'est que nous avons deux conférenciers francs-maçons. Un de la Grande Loge nationale française et un du Grand Orient de France. Et chaque obédience fait appel à un grand témoin pour évoquer le sujet qu'elle s'est donné pour l'année.
Alors cette année, pour le Grand Orient de France, il y aura donc Didier Desor,
oui,
professeur des universités, spécialiste des sciences cognitives, et donc Norbert Hiller
pour la GNF,
pour la Grande Loge nationale française. Mais les intervenants, les grands témoins sont...
Alors, les grands témoins sont le professeur Guy Valencien pour la Grande Loge nationale française, et Madame
Laurence de Villers
pour le Grand Orient de France. Madame Laurence de Villers est une spécialiste de l'intelligence artificielle qui a publié un ouvrage sur des robots et des hommes. Et on a pensé faire appel à elle parce que, en effet, sur cette question de l'essence de l'humain, on se sent un peu court dans nos loges.
Alors, ces rencontres sont les cinquièmes, comme vous l'avez dit. Réfléchir ensemble, malgré des années où les uns et les autres affectaient de s'ignorer, disons-le, sont donc pertinentes, intéressantes, nécessaires, Norbert Hiller ?
Oui, je crois que vous avez prononcé le mot juste. Ces deux obédiences vivaient dans une forme d'ignorance réciproque. Peut-être que de nombreux préjugés de des stéréotypes, des formes très convenues, très trop convenues de croyances dans ce qui était l'autre, ont conduit le prédécesseur du grand maître actuel, qui est Jean-Pierre Rollet, dont son prédécesseur était Jean-Pierre Servelle. Il faut le rappeler peut-être, c'est lui qui a eu l'idée de ces rencontres pour lever peut-être un peu ses préjugés. Et il semblerait que le courant soit passé. Je n'ai pas assisté aux premières rencontres, mais il semblerait que le courant soit passé, que le dialogue soit devenu très cordial, fructueux, et qu'il s'agit donc de le poursuivre. Voilà.
Jacques Garra, un mot, un sentiment ?
Oui, les relations entre les obédiences sont ce qu'elles sont. Néanmoins, les relations entre les francs-maçons sont parfois différentes. L'universalité de la franc-maçonnerie, c'est notre frère Bruno Étienne qui disait ça, elle est tout entière dans ses rituels. Donc tout le reste, les options philosophiques, religieuses, les convictions qui sont amenées à être défendues ici ou là, sont forcément contingentes. Donc les francs-maçons... comme la loge est finalement ce lieu que Bourdieu disait être le résultat d'un acte de magie sociale, un rite d'institution qui sépare définitivement ceux qui l'ont subi de ceux qui ne l'ont pas subi ou qui ne le subiront jamais, il se trouve que tous ceux qui l'ont subi, et qu'ils soient à la GLNF ou au GEO, sont finalement... font partie de cette magie sociale et leurs obédiences n'y peuvent pas grand-chose.
Donc réjouissons-nous ensemble, en chœur, c'est parfait, c'est très maçonnique. Je vais m'arrêter un instant sur la formulation « l'essence de l'humain » sans point d'interrogation. L'absence de point d'interrogation n'en rend pas moins problématique, si je puis dire, la formule. N'y a-t-il pas là, derrière l'énoncé affirmatif, évident, en réalité une question, pardonnez-moi, c'est un peu facile, mais essentielle dans tous les sens du terme, affirmer une essence de l'humain, n'est-ce donc pas problématique, Norbert Hiller ?
Je crois que c'est problématique, en effet, même plus que problématique. Et pour ne pas contourner le problème, mais l'affronter par un travers qui est celui de la littérature, par un biais qui est celui de la littérature, j'aimerais commencer par citer Montaigne. Et dans le tome 3 des Essais, Montaigne évoque l'idée d'un monde qui compare à une branloire pérenne, c'est-à-dire à l'idée d'un changement permanent. Il écrit ceci : les autres forment l'homme, je le récite. Et il ajoute à propos de l'essence de l'humain : je ne peins pas l'être, car cette question est peut-être trop abyssale, trop complexe, je peins le passage. Et c'est en effet, je crois, le cœur du problème qui explique les raisons, qui explique sans doute pourquoi on a fini par substituer à la question de l'essence celle de l'existence, jusqu'à l'existentialisme, dont Sartre figure le point d'orgue dans notre pays, même à l'échelle internationale sur le plan philosophique. Pour continuer donc avec Montaigne, je dirais que le problème de l'essence de l'homme, il est en effet d'une immense complexité, en ce sens que cette essence nous est toujours donnée d'une certaine manière à travers un certain nombre de possibles, de croyances, de foi, de systèmes, de dispositifs, de logos, etc. Mais en même temps, elle nous est toujours confisquée. C'est comme si on était face à cette question à la fois dans le défaut et dans l'excès, dans le manque et dans la sublimation, dans le voisinage toujours incessant et inquiétant du fini et de l'infini. Et donc, cette question de l'essence de l'homme, à mon sens, ce qu'elle nous révèle, ce qu'elle nous dit à travers le temps, c'est une foncière inadéquation de l'homme à lui-même, aux images qu'il se forge, qu'il se donne de lui-même, aux représentations qu'il se donne de lui-même. Et ce que je constate, c'est que la pensée du judaïsme n'a pas cessé de penser cette question sur le mode de l'altérité. C'est-à-dire, quand on cherche l'homme, quand on cherche ce que Descartes appellera le sujet, ce qu'on rencontre, c'est l'autre. Et la poésie le dit très bien, Rimbaud le dit très bien, « Je est un autre ». Donc, d'une certaine manière, je dirais que la grande question qui forge, qui forme ce passage dont parle Montaigne à propos de l'essence de l'être humain, eh bien, c'est finalement l'inachèvement originaire de l'être humain qui se mesure toujours à une forme d'altérité, que ce soit l'altérité des religions, que ce soit l'altérité de la technique, que ce soit l'altérité de l'art, etc., etc. Donc finalement, La grande question de l'essence de l'homme, c'est qu'il faut toujours de l'autre pour faire un homme. Voilà.
Norbert Hiller, pour approfondir votre réponse, faut-il comprendre que pour vous, c'est dans son existence que se dévoile pour l'homme, pour cet être ondoyant et divers, pour reprendre la formule montagnienne, que se dévoile son essence?
Oui, je dirais que cette essence de l'humain, elle se dévoile dans son existence, bien entendu, mais la question de l'existence ne peut pas se penser, comme l'ont posé beaucoup de philosophes en particulier depuis la Renaissance et jusqu'au XXe siècle, ne peut pas se poser sans se mesurer à celle de la finitude de l'existence. Et donc à la question aussi de cette relation entre ce qui est la réalité de l'homme et la réalité de ce qui est au-delà de l'homme. Pas nécessairement la question de Dieu, mais aussi toute la question de ce qui fait de l'homme un être qui se situe toujours sur une frontière très complexe entre, disons, la limite et l'illimité. Et d'une certaine manière, ce que
c'est pascalien.
D'une certaine manière, c'est pascalien. C'est vrai que
il est tout face à l'infini. Il n'y a rien, un néant face à l'infini.
Exactement. Il est pascalien dans tous les sens de ce que Pascal a pu en effet déployer comme propos à ce sujet. J'avais une phrase à propos de Pascal à vous donner, mais je ne la retrouve pas à l'instant. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la question me semble... Si, je l'ai retrouvée. Qu'est-ce qu'un homme dans la nature? Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout. Et donc, la question de l'existence ne peut pas suffire à répondre de la question de l'essence. Et alors, ce qui a d'être très intéressant, me semble-t-il, avec les questions posées par cette illimité qui s'annonce avec la technologie telle que nous la rencontrons aujourd'hui, qui n'est plus du tout une affaire de moyens, mais une sorte d'horizon d'attente qui se profile à travers le transhumanisme, etc., eh bien, c'est que d'une certaine manière, cette question de l'essence de l'humanité nous revient comme un défi, comme un enjeu, comme un horizon, comme un espoir ou un désespoir, je n'en sais rien. Et c'est cette question-là qui fait que c'est peut-être intéressant, en effet, de reposer la question de l'essence de l'humain.
Alors on va y venir. Auparavant, Jacques Garra, pour un franc-maçon, à quoi renvoie l'essence de l'humain? Je vais dire, même pour un franc-maçon du Grand Orient de France, dont vous êtes une des incarnations quasi parfaites.
N'exagérons rien. Donc, oui, en effet, ce n'est pas une question qui allait de soi pour un franc-maçon du Grand Orient de France. En vérité, pour ce que j'en sais, évidemment, je ne connais pas le secret des quelques 53 000 membres de notre obédience, mais pour ce que je sais, je pense que ce n'est pas une question que l'on se pose volontiers dans nos loges. On travaille dans le prolongement des Lumières, de l'humanisme universaliste des Lumières, qui repose en gros finalement sur le dualisme cartésien simple, le sujet, l'objet et la res extensa, et puis voilà. Et puis l'idée transmise par l'initiation qu'il y a une véritable perfectibilité de l'homme et qui pour cela se met en loge avec d'autres pour travailler sur soi et éventuellement se projeter vers l'extérieur. Donc, ce n'est pas une question qui nous préoccupait, ou à tort ou à raison. Hein, je ne défends pas une doctrine.
Avant que la réponse juste évoquée, parce que notre émission est brève, par Norbert Hiller, conviendra très probablement à la plupart des maçons du Grand Orient de France. On parlait de stéréotypes, de représentations entre nos deux obédiences. Je ne sais pas si ce serait un compliment pour mon invité, mais un franc-maçon du Grand Orient de France aurait pu défendre des positions à peu près semblables.
sans...
Et ça a quelque chose de rassurant. Alors je voudrais, si vous le permettez, parce qu'il nous reste peu de temps, revenir justement sur l'angle quand même particulier des interventions qui auront lieu lors de ces rencontres. Il y aura bien sûr une réflexion générale, comme nous l'avons esquissé ici sur l'essence de l'humain, mais aussi en relation avec les rêveries ou peut-être devrais-je dire les cauchemars transhumanistes d'hommes augmentés. Est-ce que ces progènes ne vont pas nous conduire à une redéfinition, le terme est peut-être excessif, de notre humanité, Norbert Hiller?
Écoutez, je dirais qu'il y a plusieurs réponses possibles.
Je commencerai Elles par... devront être très brèves.
Très brèves, très très rapidement. Je pense que c'est peut-être une bonne nouvelle que cette question qui est posée par le transhumanisme, parce qu'elle va nous obliger à réfléchir. À réfléchir d'une manière peut-être moins convenue que celle à laquelle nous étions accoutumés. Et d'abord réfléchir à partir de nous-mêmes. Et là, je pense que Jacques sera aussi d'accord. La loge, c'est un lieu au fondement duquel il y a un certain nombre d'outils, de dispositifs. Ces outils sont certes les outils au service d'un rituel, ce sont des symboles, mais je pense que derrière ces outils, ce qui se rappelle à nous, c'est un petit peu la vieille maçonnerie opérative, d'une certaine manière. Et donc, la montée en puissance des dispositifs techniques, relayée d'ailleurs par le langage, les neurosciences, qu'est-ce que c'est sinon ces machines de pensée qui nous arrivent et qui nous posent autant de problèmes qu'elles apportent de réponses. Eh bien, je pense qu'elles nous obligent à penser, elles nous obligent à nous reposer les questions que l'on croyait résolues de cet humanisme dans lequel nous fondions notre croyance. Et Michel Foucault avait lui-même déjà annoncé la fin de l'homme au sens où nous le connaissions. Ça nous ouvre les portes d'une forme d'illimité entre l'homme, la machine et l'animal, qui est extrêmement intéressante.
Un mot vraiment bref de conclusion, Jacques.
Oui, la loge travaille à la lumière de la raison, avons-nous coutume de dire, mais elle le fait avec des outils symboliques.
Merci Jacques Garat, merci Norbert Hiller, merci à tous nos auditeurs, j'espère vous retrouver le 2 juin. Bon dimanche.